Chapitre 41. Alt et Milp. 5 ans et demi plus tôt. Kaladin dépassa Lara en train de hurler et entra en titubant dans la salle d'opération. Même après des années passées à travailler avec son père, la quantité de sang contenu dans la pièce le choqua, comme si l'on avait renversé un seau de peinture rouge vif. L'odeur de la chair brûlée flottait dans l'air. Lyrine travaillait à gestes affolés sur le clarissime Rihir, le fils de Rochaune. Un objet d'apparence sinistre, évoquant une défense, saillait de l'abdomen du jeune homme, et la partie inférieure de sa jambe droite était broyée. Elle ne tenait plus que par quelques tendons, et des esquilles d'os dépassaient comme des roseaux des eaux d'un étang. Le clarissime Rochaune lui-même reposait sur la table latérale, gémissant, fermant très fort les yeux tandis qu'il tenait sa jambe, qui était percée par une autre de ses lances osseuses. Du sang coulait de son pansement improvisé par-dessus le bord de la table et tombait à terre où il se mêlait à celui de son fils. Kaladin restait sur le pas de la porte, bouche bée. Laral hurlait toujours. Elle agrippa le châssis de la porte tandis que plusieurs des gardes de Rochaune essayaient de l'emmener. Ses hurlements étaient paniqués.
« Faites quelque chose, vite! Ce n'est pas possible! Il était là où ça s'est passé et je m'en fiche et laissez-moi partir !»
Ces phrases embrouillées dégénérèrent en hurlements aigus. Les gardes la relâchèrent enfin. « Kaladin !» lui lança son père d'une voix brusque. « J'ai besoin de toi !» Arraché à sa stupéfaction, Kaladin entra dans la pièce, se nettoya les mains, puis alla prendre des pansements dans le cabinet, foulant le sol sanglant. Il entrevit le visage de Rihir. Une grande partie de la peau du côté droit avait été arrachée. La paupière avait disparu. L'œil bleu lui-même avait été entaillé à l'avant, dégonflé comme la peau d'un grain de raisin qu'on pressait pour faire du vin. Kaladin se précipita vers son père, muni des pansements. Sa mère apparut sur le pas de la porte avec Tien derrière elle. Elle porta la main à sa bouche, puis écarta Tien. Il tituba avec l'air de défaillir. Elle revint sans lui l'instant d'après.
« De l'eau, Kaladin !» cria Lyrine. « Ezina, va en chercher aussi, vite !»
Sa mère se précipita pour l'aider, bien qu'elle l'assiste désormais rarement pour les opérations. Ses mains tremblaient lorsqu'elle s'empara de l'un des seaux et courut à l'extérieur. Kaladin apporta à son père l'autre seau qui était plein, tandis que Lyrine dégageait le morceau d'os du ventre du jeune Palyris. L'œil restant de Rihir papillonna, et sa tête fut agitée de secousses.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
demanda Kaladin en pressant le pansement contre la plaie, tandis que son père jetait sur le côté l'étrange objet.
« Une défense de Paléchine, » dit son père.
« De l'eau !»
Kaladin s'empara d'une éponge, la plongea dans le seau, puis s'en servit pour presser l'eau dans la plaie au ventre de Rihir. Ce qui nettoya le sang et permit à Lyrine de mieux constater les dégâts. Il tâtonna du bout des doigts tandis que Kaladin préparait du fil et une aiguille. Il y avait déjà un garrot à la jambe. L'amputation elle-même surviendrait plus tard. Lyrine hésita, les doigts à l'intérieur du trou béant du ventre de Rihir. Kaladin nettoya de nouveau la plaie. Il leva vers son père des yeux inquiets. Lyrine ressortit les doigts et s'avança vers le clarissime Rochaune.
« Pansement, Kaladin !» dit-il d'une voix brusque.
Kaladin se précipita mais jeta par-dessus son épaule un coup d'œil à Rihir. Le jeune Palyris, autrefois séduisant, trembla de nouveau, pris de spasmes.
« Père, pansement !» dit Lyrin.
« Que faites-vous, chirurgien ?» hurla Rochaune.
« Et mon fils ?»
Des sprènes de douleur grouillaient autour de lui.
« Votre fils est mort, » dit Lyrine en arrachant la défense de la jambe de Rochaune.
Le Palyris hurla de douleur, mais Kaladin ignorait si c'était à cause de la défense ou de son fils. Rochaune serra la mâchoire tandis que Kaladin appuyait le pansement contre sa jambe. Lyrine plongea les mains dans le seau d'eau, puis s'empressa de les essuyer à l'aide de sève de Bosseline pour faire fuir les sprènes de pourriture.
« Mon fils n'est pas mort !» gronda Rochaune. « Je le vois bouger !»
Occupez-vous de lui, chirurgien.
Kaladin, va chercher l'eau narcotique, ordonna Lyrine tout en s'emparant de son aiguille de couture. Kaladin se précipita vers le fond de la pièce, soulevant des gerbes de sang sous ses pas et ouvrit à toute volée le placard du fond. Il en sortit un petit flacon de liquide clair.
Que faites-vous ? Hurla Rochefaune en essayant de s'asseoir.
Regardez mon fils, nom du Tout-Puissant, regardez-le !
Kaladin se tourna, hésitant, et marqua un temps d'arrêt alors qu'il versait de l'eau narcotique sur un pansement. Rhyr était agité de spasmes encore plus violents.
Je travaille selon trois directives, Rochefaune, déclara Lyrine en forçant le paliris à se rallonger sur sa table. Celle que respectent tous les chirurgiens lorsqu'ils doivent choisir entre deux patients. Si les blessures sont équivalentes, traitez d'abord le plus jeune.
Dans ce cas, occupez-vous de mon fils.
Si les blessures ne présentent pas une menace égale, traitez d'abord la plus grave.
C'est ce que je viens de vous dire.
La troisième directive supplante les deux, poursuivit Lyrine en se penchant. Un chirurgien doit savoir quand il ne peut plus rien pour quelqu'un. Je suis désolé, Rochefaune. Je l'aurais sauvé si je le pouvais, je vous le promets. Mais je n'en suis pas capable.
Non ! S'écria Rochefaune en se débattant de nouveau. Kaladin, vite !
Dit Lyrine. Kaladin se précipita. Il appuya le pansement d'eau narcotique contre le menton et la bouche de Rochefaune, juste en dessous du nez, obligeant le paliris à inhaler les vapeurs. Kaladin retint son propre souffle, comme on le lui avait appris. Rochefaune hurla et s'époumona, mais tous deux le maintenaient en place, et la perte de sang l'avait affaibli. Bientôt, ses hurlements s'adoucirent. Quelques secondes plus tard, il tenait des propos incohérents et souriait pour lui-même. Lyrine reporta son attention sur la plaie à la jambe, tandis que Kaladin s'en allait jeter le pansement imbibé d'eau narcotique.
Non, administre-le à Rhyr. Son père ne détourna pas le regard de son travail. C'est la seule délivrance que nous puissions lui offrir.
Kaladin hocha la tête et utilisa le pansement d'eau narcotique sur le jeune blessé. La respiration de Rhyr se fit moins saccadée, bien qu'il ne semble pas assez conscient pour en remarquer les effets. Puis, Kaladin jeta le pansement dans le brasero. La chaleur en annulait les effets. Le pansement blanc et cotonneux se plissa et brunit dans le feu, et de la vapeur s'en dégagea tandis que les bords s'enflammaient. Kaladin revint muni de l'éponge pour nettoyer la plaie de Rochefaune, tandis que Lyrine l'inspectait. Il y avait quelques éclats de défense coincés à l'intérieur, et Lyrine marmonna pour lui-même, tout en sortant ses pincettes et un couteau affûté comme un rasoir.
« La damnation les prenne tous !» dit Lyrine en sortant le premier fragment de défense. Derrière lui, Rhyr cessa de bouger.
Ça ne leur suffit pas d'envoyer la moitié d'entre nous à la guerre. Pourquoi faut-il qu'ils cherchent la mort, même quand ils vivent dans une commune tranquille?
Rochefaune n'aurait jamais dû partir à la recherche de ce foudre de Paléchine.
Ils le cherchaient?
Ils sont allés le chasser, cracha Lyrine. Wistiov et moi, nous avions l'habitude de plaisanter sur les pâles iris comme eux. Quand on ne peut pas tuer d'hommes, on tue les bêtes. Eh bien, Rochefaune, voilà ce que vous avez gagné.
Père, dit doucement Kaladin, il ne sera pas très content de vous quand il se réveillera.
Le clarissime chantonnait tout bas, allongé, les yeux clos. Lyrine ne répondit pas. Il retira un autre fragment de défense et Kaladin nettoya la plaie. Son père appuya les doigts contre le côté de la large blessure et l'inspecta. Il y avait un dernier éclat de défense saillant d'un muscle à l'intérieur de la plaie. Juste à côté de ce muscle palpitait l'artère fémorale, la plus grande artère de la jambe. Lyrine introduisit son couteau pour dégager prudemment le morceau de défense, puis il s'arrêta un moment, le tranchant de sa lame à quelques millimètres de l'artère.
Si elle était tranchée, songea Kaladin. Rochefaune mourrait en quelques minutes. Il n'était vivant à l'heure actuelle que parce que la défense avait manqué l'artère. La main de Lyrine, stable en temps ordinaire,
frémit. Puis, il leva les yeux vers Kaladin. Il retira le couteau sans toucher l'artère et introduisit ses pincettes pour dégager le fragment. Il le jeta, puis s'empara calmement du fil et de l'aiguille. Derrière eux, Rihir avait cessé de respirer. Ce soir-là, Kaladin resta assis sur les marches menant à sa maison, main sur le giron. Rochaune avait été renvoyé à sa propriété pour que ses serviteurs personnels s'en occupent. Le corps de son fils refroidissait dans la crypte, en bas, et l'on avait envoyé un messager demander un spiricante pour le corps. À l'horizon, le soleil était rouge sang. Partout où regardait Kaladin, le monde était rouge. La porte de la salle d'opération se referma, et son père, l'air aussi épuisé que lui, sortit en titubant. Il s'assit près de Kaladin en soupirant et regarda le soleil. Lui aussi le voyait-il couleur sang. Ils gardèrent le silence tandis que le soleil descendait lentement devant eux. Pourquoi était-il plus coloré quand il s'apprêtait à disparaître pour la nuit? Était-il encore en colère qu'on l'oblige à descendre sous l'horizon? Ou se donnait-il en spectacle avant de se retirer? Pourquoi la partie la plus colorée du corps des gens, la teinte vive de leur sang, était-elle cachée sous la peau, où personne ne la voyait jamais à moins que quelque chose ne tourne mal? Non, songea Kaladin, le sang n'est pas la partie la plus colorée d'un corps, les yeux aussi peuvent l'être. Le sang et les yeux, deux représentations de l'héritage de quelqu'un et de sa noblesse. J'ai vu à l'intérieur d'un homme aujourd'hui, dit enfin Kaladin. Pas pour la première fois, dit Lyrin, et certainement pas la dernière. Je suis fier de toi. Je m'attendais à te trouver ici en train de pleurer, comme tu le fais généralement quand nous perdons un patient. Tu apprends.
Quand je dis que j'ai vu à l'intérieur d'un homme aujourd'hui, dit Kaladin, je ne parlais pas des blessures.
Lyrin ne répondit pas tout de suite. Je vois.
Tu l'aurais laissé mourir si je n'avais pas été là, n'est-ce pas?
Silence.
Pourquoi tu ne l'as pas fait?
Demanda Kaladin.
Ça aurait réglé tellement de choses.
Ça n'aurait pas été le laisser mourir. Ça aurait été un meurtre. Tu aurais pu te contenter de le laisser saigner, puis affirmer que tu ne pouvais pas le sauver.
Personne ne t'aurait posé de questions. Tu aurais pu le faire.
Non, dit Lyrin en regardant le soleil couchant. Non, je n'aurais pas pu.
Mais pourquoi?
Parce que je ne suis pas un tueur, mon fils. Kaladin fronça les sourcils. Le regard de Lyrin était lointain. Il faut bien que quelqu'un commence, que quelqu'un s'avance et fasse ce qui est juste, parce que c'est juste. Si personne ne commence, alors les autres ne peuvent pas suivre. Les pâles iris font de leur mieux pour s'entretuer et nous tuer. Les autres n'ont toujours pas ramené Alts et Milp. Rochaune les a simplement laissés là-bas. Alts et Milp, deux habitants de la ville, avaient pris part à la chasse, mais n'étaient pas revenus avec le groupe qui portait les deux pâles iris blessés. Rochaune s'était tellement inquiété pour Rihir qu'il les avait laissés en arrière afin de voyager plus vite.
Les pâles iris ne se soucient pas de la vie, dit Lyrin. Alors il faut que je le fasse. C'est une autre raison pour laquelle je n'aurais pas laissé mourir Rochaune, même si tu n'avais pas été là. Mais te voir m'a effectivement donné force.
J'aurais préféré que ce ne soit pas le cas, dit Kaladin.
Tu ne dois pas dire ce genre de choses.
Pourquoi?
Parce que, mon fils, il faut que nous soyons meilleurs qu'eux. Il se leva en soupirant.
Tu ferais mieux d'aller dormir. J'aurai peut-être besoin de toi quand les autres rentreront avec Alts et Milp.
C'était peu probable. Les deux hommes devaient être morts à présent. On disait que leur plaie était grave, et puis les pâles échines rôdaient toujours dans les parages.
Lirine rentra, mais n'obligea pas Kaladin à le suivre.
« Est-ce que je l'aurais laissé mourir ?» se demanda Kaladin. « Est-ce que j'aurais ne serait-ce que fait trembler ce couteau pour précipiter les choses ?»
Roshon n'avait été qu'un fléau depuis son arrivée, mais est-ce que ça justifiait de le tuer ? Non, trancher cette artère n'aurait pas été justifié. Mais quelle obligation Kaladin avait-il de l'aider ? Refuser son aide n'était pas la même chose que tuer, pas du tout. Kaladin y réfléchit sous une dizaine d'angles différents, méditant les paroles de son père. Ce qu'il découvrit le choqua. En toute honnêteté, il aurait laissé Roshon mourir sur cette table. Ça aurait mieux valu pour sa famille, pour la ville tout entière. Le père de Kaladin s'était autrefois moqué du désir qu'avait son fils de partir à la guerre. Effectivement, maintenant que Kaladin avait décidé par lui-même qu'il allait devenir chirurgien, les pensées et les actes de sa jeunesse lui semblaient puérils. Mais Lirine croyait Kaladin incapable de tuer. « Tu peux à peine marcher sur un crémillon sans te sentir coupable, mon fils », lui avait-il dit. « Plonger ta lance dans le corps d'un homme serait bien moins facile que tu ne parais le croire. » Mais son père se trompait. C'était une révélation stupéfiante, effrayante. Ce n'était pas un vague caprice ni une rêverie sur la gloire du combat, c'était bien réel. En cet instant, Kaladin sut qu'il pouvait tuer, si nécessaire. Certaines personnes, comme un doigt en train de se gangréner ou une jambe brisée au-delà de toute réparation possible, devaient simplement être éliminées.